Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Tanguy de Cotigny, cofondateur de StockHelp. Bonjour Tanguy.
Bonjour Xavier.
Alors Tanguy, la traditionnelle question pour commencer le podcast sur Entrepreneur Café, est-ce que tu pourrais nous faire le pitch de StockHelp ?
Bah ouais, avec plaisir. Écoute, StockHelp, c'est une solution d'achat responsable pour les industriels dans l'agroalimentaire. Donc si on synthétise un peu ça, c'est une plateforme qui permet aux industriels de pouvoir acheter et vendre tout ce qui est sur stock de matières premières. À savoir que les matières premières dans l'industrie agro, c'est le plus souvent des matières qui sont surgelées ou sèches, et des matières premières qui sont en surstock, c'est juste des stocks dormants qui ne sont plus exploités et qui du coup bah, méritent d'être valorisés. Sinon, aujourd'hui, ce qui se passe dans la plupart des cas, c'est que ce sont des matières qui sont malheureusement détruites ou en tout cas très peu valorisées dans l'industrie.
C'est quel type de matière ? Est-ce que tu peux être un peu plus précis ? Et c'est quoi les volumes ? Est-ce que c'est gros ce que vous faites ou c'est
Aujourd'hui, on valorise, vu qu'on travaille dans l'industrie agroalimentaire, nous, ce qui nous tient à cœur, c'est de pouvoir réduire le gaspillage alimentaire. Et de ce fait, bah, on ne revalorise que des surstocks de matières premières alimentaires. Et effectivement, c'est important aujourd'hui de mettre l'accent sur ces stocks-là, car on sait revaloriser tout ce qui est stock de produits finis dans l'industrie agroalimentaire, qui sont les produits qu'on achète, nous, en tant que consommateurs. Par contre, les stocks de matières premières, c'est des typologies de produits totalement différentes, qui sont souvent dans des quantités astronomiques. C'est des matières qui sont vouées à rentrer dans un cycle, dans un processus industriel. Et du coup, on parle de stocks qui sont au minimum à la palette, mais sur la plateforme, aujourd'hui, on peut vendre des stocks qui vont concerner plusieurs camions complets. Donc oui, on peut avoir des quantités qui sont énormes à la vente sur la plateforme.
Ça veut dire que le producteur a trop produit, il n'arrive pas à écouler, c'est ça ? Quelle est la raison pour laquelle derrière, il y a des surplus ?
Alors généralement, ça ne vient pas du producteur, ça vient de l'industriel qui a trop acheté et qui n'a plus besoin de produire. Il y a plein de raisons qui sont liées à ça. Soit il a fait une erreur dans ses prévisions, les achats sont liés à des prévisions, ça arrive malheureusement. Soit il a eu un déréférencement de produits, créer une nouveauté quand on est un industriel, la nouveauté ne fonctionne pas, bah on a tous les stocks sur les bras, ce qui est un peu bête, mais en fait, quand on prévoit nos achats de matières premières, on est obligé de les prévoir sur plusieurs mois. Donc si on a un échec commercial, bah on a les matières premières sur les bras. Et après, il y a d'autres raisons qui sont aussi liées au fonctionnement de l'industrie par rapport à la grande distribution, où en gros, quand on travaille avec la grande distribution, on doit répondre à ce qu'on appelle un taux de service. Donc, on doit livrer. Dans ce cas-là, c'est souvent 99% de ce qui a été commandé. Et si on ne livre pas ce qui est commandé, ben, on a des pénalités. Et justement, pour éviter ces pénalités, on a un peu tendance à surproduire et du coup à suracheter en début de chaîne.
Oui, pour ne pas être en défaut par rapport à ce taux. D'accord.
Exactement.
En type de matière première, on parle de quoi ? On parle du lait, par exemple, d'autres choses de ce genre-là ?
Alors aujourd'hui, nos plus gros marchés, c'est sur les protéines et sur ce qui est végétal. Donc en gros, si on synthétise aujourd'hui nos plus gros produits vendus sur la plateforme, c'est soit du poisson et de la viande, soit des fruits et des légumes, qui sont la plupart du temps surgelés.
Donc les vendeurs, en gros, c'est les industriels qui ont, comme tu disais, pour synthétiser, trop acheté, et les acheteurs, du coup, c'est...
C'est les mêmes industriels. C'est ce qui est super intéressant dans ce business, c'est qu'en fait, on a des acheteurs et des vendeurs qui ont la même casquette, exactement comme sur une plateforme C2C classique, type Le Bon Coin. Et en fait, je peux me retrouver, moi, en tant qu'industriel, avec trop de stock sur mon site de production, donc je le vends sur la plateforme. Et exactement à l'inverse, j'ai besoin d'un achat spot sur une matière un peu moins chère que ce que j'achète chez mon fournisseur, bah, je l'achète sur la plateforme aussi.
Avant cette solution que tu proposais, ils faisaient quoi de leur surstock, ces industriels ? Ils devaient s'en débarrasser ou...
Alors, t'as plusieurs solutions. Malheureusement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est le plus souvent les acheteurs qui gèrent ce genre de problématiques. C'est des personnes qui ont déjà des calendriers assez chargés, qui n'ont pas trop le temps de s'occuper de ces stocks. Et malheureusement, la plupart du temps, ces stocks partent en destruction parce qu'en fait, on n'a pas de voie de revalorisation. Et dans le meilleur des cas, ce qui est déjà mieux que la destruction, ça peut partir parfois en pet food, donc en nutrition animale, ou pour certains produits, tous les produits ne sont pas concernés, en méthanisation. Mais si on prend un peu de recul, c'est quand même un peu dommage. On parle de matières qui ont été pré-transformées, c'est souvent des matières surgelées, qui coûtent cher, qui peuvent être encore consommées. Donc l'idéal, c'est quand même de pouvoir les remettre dans un cycle de production classique pour qu'elles soient consommées.
Et du coup, ça m'amène à ma seconde question, Tanguy, c'est d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait avant et qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette idée de créer StockHelp ?
Ouais, bah je viens de l'industrie, comme tu peux t'en douter, je viens de l'industrie agro. Alors j'ai un parcours, j'ai toujours été dans le milieu industriel, pas que dans l'industrie agro. J'ai commencé ma carrière comme consultant en stratégie, mais dans l'industrie lourde, parce que je travaillais dans l'aéronautique majoritairement, pas côté impact. J'ai après rejoint l'industrie agroalimentaire que j'ai découvert il y a 7 ans à peu près. Et j'ai été directeur des opérations dans une PME agro, et c'est là que j'ai découvert tous les problèmes qui étaient justement liés à la gestion des stocks, la gestion des achats, sachant qu'en fait, là, on n'apprend rien, mais dans l'industrie agroalimentaire, c'est une des rares industries où on gère des stocks avec des dates de péremption. Donc il faut être ultra précautionneux sur ses achats, parce que en plus des soucis de BFR, il y a les soucis de gaspillage et de destruction. Donc on doit jongler entre optimiser ses coûts, optimiser ses stocks et optimiser, enfin en tout cas réduire le plus possible son gaspillage. Et c'est exactement les problématiques auxquelles j'étais confronté avant, où en fait, bah dans mon métier précédent, je bossais dans une PME qui faisait de la soupe. Typiquement, on achetait des légumes, on avait régulièrement des surstocks de produits finis, qui sont en tant que tels aujourd'hui gênants parce que c'est pas bien de trop produire, mais dans les faits, c'est super facile, entre guillemets, de pouvoir les revaloriser. Quand on a des produits finis en trop, déjà on peut faire du don. Nous, on donnait tout Resto du Cœur à l'époque, mais on peut faire du don. C'est en plus assez intéressant fiscalement. Et à côté de ça, il y a plein de solutions qui existent pour revaloriser ces produits. Tu peux les revendre à des Phoenix, des Too Good To Go. Il y a des déstockers aussi un peu plus...
Ouais, il y a toute une filière qui s'est mise en place là-dessus. Ouais.
Tu as toute une filière. Par contre, ce que j'ai découvert côté matières premières, c'est que généralement, bah, quand tu as des matières premières qui sont en trop dans ton usine, ce qui se passe, c'est que tu attends un peu le dernier moment parce que tu as toujours espoir de pouvoir les sauver à un moment ou à un autre. Puis au final, à un moment, il y a ton usine qui t'appelle, qui te dit « Écoute, t'es gentil Tanguy, mais on a 10 tonnes de courgettes sur les bras qui traînent dans les stocks depuis 3 mois. C'est du surgelé, donc ça coûte extrêmement cher. J'ai besoin de la place. » Donc en fait, soit tu trouves une solution dans la semaine, soit bah, je vais être obligé de les détruire la semaine prochaine. Et c'est dans cette logique où bah, au début, je me suis dit c'est complètement stupide, on ne peut pas se permettre de détruire des matières comme ça, sachant que j'étais un industriel qui faisait des produits à base de légumes et on est des centaines d'industriels en Europe à utiliser exactement les mêmes matières. J'ai commencé à me dire, mais si moi j'en ai en stock chez moi et que je les utilise plus, il y a forcément quelqu'un, quelque part, qui a besoin de cette matière-là et qui sera intéressé pour me la récupérer. J'ai commencé à réfléchir comme ça, à trouver des industriels un peu partout ailleurs en Europe qui seraient potentiellement intéressés par mes stocks. Il n'y a pas de logique financière, c'était vraiment, dans mon ancien boulot, la logique c'était vraiment de se dire, je leur donne la matière, ils payent le transport et au moins moi je ne détruis rien. Et puis de fil en aiguille, j'ai mis ça un peu en place pour... moi, à ma petite échelle de PME, et puis au fur et à mesure, j'en ai parlé de plus en plus avec d'autres industriels. Ça a duré à peu près 2 ans où j'en parlais un peu avec tout le monde. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, c'est dingue, il y a quand même tout le monde qui me remonte le même problème. C'est que oui, on a des stocks dormants, on ne sait pas quoi en faire et on les détruit la plupart du temps, alors qu'en fait, il manque juste un outil de mise en relation au milieu pour pas détruire et revaloriser des matières, quoi.
C'était quand? C'était à quelle période?
C'était, du coup, il y a à peu près 4-5 ans. On a monté la boîte là il y a 2 ans et demi et je pense que je me suis un peu posé sur l'idée pendant 2 ans.
D'accord, donc tu faisais ça en parallèle, tu étais toujours directeur des opérations de cette PME, tu as commencé à réfléchir à cette idée, en parler autour de toi et après tu t'es lancé il y a 2 ans et demi vraiment quoi.
C'est exactement ça. En fait, j'ai commencé à tester le concept dans cette boîte avant parce que moi, à titre perso, pour mon métier, j'avais besoin de revaloriser mes surstocks. Et c'est au fil des discussions où je me suis dit, mais il y a un truc qui est assez extra à faire dans une industrie où les achats n'ont pas évolué depuis des années et où il y a un besoin de digitalisation et un besoin de réduction du gaspillage, surtout dans une période où on a de plus en plus de mal à produire de la matière première, il y a une inflation qui n'est pas possible, il y a des pénuries sur certaines matières qui sont juste intenables, donc on a besoin de valoriser déjà ce qui est présent sur le marché, quoi.
Et donc du coup, est-ce que tu t'es associé avec des gens pour faire ça ou tu as fait ça tout seul ?
Non, je me suis associé avec William, qui est cofondateur de Stockhelp et qui, pour la petite histoire, était le directeur commercial de la boîte dans laquelle j'étais avant. En fait, je me suis associé avec un de mes meilleurs amis, mais qui était un de mes collègues avant d'être un de mes meilleurs amis. Ce qui est pour moi super important quand on monte une boîte, c'est qu'en fait, on a bossé avec William pendant un peu plus de 4 ans, pendant 4 ans et demi, dans le même bureau, sur des postes ultra complémentaires, parce que lui était au commerce et moi aux opérations, qui sont généralement des postes qui ont besoin l'un de l'autre pour que la boîte aille bien. Et non, on a monté la boîte tous les deux, du coup, sur 2 profils très complémentaires et 2 profils qui savent bosser ensemble, ce qui est quand même assez utile pour monter une boîte, à mon sens.
Dans ce que tu me dis, j'ai l'impression que le plus important, le nerf de la guerre pour avoir créé vos sociétés, c'est avoir assez de contacts, de réseaux pour pouvoir rapidement trouver les stocks en surplus et pouvoir les écouler.
Il y a un besoin, c'est aussi pour ça que, bah, tu vois, on a dit il y a quelques minutes qu'il y avait déjà pléthore de solutions en fin de chaîne parce que tu es sur une dynamique B2B2C où tu peux grossir relativement vite et tu n'adresses pas que l'industrie, donc tu as besoin du consommateur, donc tu n'as pas forcément besoin de base de clients. Par contre, côté industrie pure et dure, c'est un milieu qui est relativement fermé, c'est un milieu qui marche énormément à la confiance et au réseau et au bouche à oreille. En tout cas, ce n'est pas impossible d'aller dans ce genre d'industrie si on n'y connaît rien, mais je pense que ça aide beaucoup à accélérer de se lancer quand on connaît déjà l'industrie, on connaît un peu déjà les usages de l'industrie et surtout qu'on connaît des acteurs. Nous, quand on a lancé la boîte avec William, on s'est fait un gros tour de France des industriels qu'on connaissait déjà. On a pris notre voiture, on allait les voir, on leur a parlé de l'idée, on a mis un peu tout ce qu'on avait en tête sur la table avec eux et ça nous a beaucoup aidé au tout début, au lancement, à structurer un peu ce qu'on voulait faire, quoi.
Comment marche la plateforme? Est-ce que vous faites juste entre guillemets la mise en relation, vous prélevez un pourcentage sur le montant de la commande ou est-ce que vous stockez vous-même les produits en surplus avant de les réexpédier au client final?
Alors, c'est un peu faire la réponse entre deux. C'est un mix des deux solutions, dans le sens où on n'est pas une pure marketplace, mais on n'est pas un grossiste non plus. Grosso modo, ce qui se passe aujourd'hui sur la plateforme, c'est qu'on doit aller plus loin qu'une simple marketplace, parce qu'on parle de négoce de matières premières et que c'est ultra encadré, et que nous, en tant qu'intermédiaire, on a un devoir de traçabilité, un devoir de qualité, déjà parce qu'on n'a pas le choix, et en plus de ça, parce que si on veut perdurer sur le marché, il faut qu'on soit irréprochable. Donc, on n'a pas une marketplace à proprement parler, on a plus un outil de trading, dans le sens où tout ce qui transite sur la plateforme et acheté par Stockhelp une fois que ça a été vendu. Ce qu'on appelle du dropshipping. Et ce qui est fait en plus, c'est qu'aujourd'hui sur la plateforme, on gère toute la partie qualité administrative, négoce et logistique. Donc, en fait, on a une plateforme qui gère à peu près tout. Et si on synthétise tout ça, ça veut dire qu'un industriel qui veut déposer un stock, aujourd'hui, la seule chose qu'il a à faire, c'est se créer un compte, donc mettre des infos légales, déposer son annonce, mettre toute la documentation légale qui est liée à l'annonce. Et là, son boulot s'arrête ici. Derrière, c'est nous qui reprenons le reste, qui allons contrôler les documents, qui allons contrôler la marchandise, en gros, que les documents qui sont liés à la marchandise sont bien conformes. On va proposer un prix pour la matière première, ou en tout cas, essayer d'aiguiller un peu le client pour trouver le prix le plus rationnel pour qu'il puisse revendre son produit. Et derrière, on a tout notre algo qui va faire matcher ce produit avec les industriels qui sont référencés sur la plateforme. Et à partir du moment où il y a un client qui est intéressé, on fonctionne sur un système d'offres. Et nous, on est au milieu et on vient ajuster notre marge en fonction de le prix auquel on peut l'acheter, le prix auquel on peut revendre la marchandise, exactement comme du trading classique.
Votre client, qui est, on va dire, l'acheteur, lui, il n'a pas forcément une idée précise du prix auquel il peut revendre son stock. Donc, c'est vous qui l'aidez à dire, bah, tiens, par rapport à ce qu'on sait, nous, le prix marché, c'est à peu près ça. Donc, on pense que tu pourrais avoir un tel prix. Et après, vous mettez une marge dessus, quoi, en gros.
C'est exactement ça. Au tout début, on n'avait pas de données, du coup, on naviguait un peu à vue. On proposait un peu en dessous, un peu au-dessus, on voyait ce qui se passait. Aujourd'hui, on commence à avoir de la donnée, donc on sait aiguiller les vendeurs sur la plateforme sur le prix auquel ils peuvent vendre leurs produits. On essaye du coup de leur donner des recommandations. Au final, c'est toujours eux qui ont la main sur le positionnement tarifaire. La plupart nous demandent parce qu'en fait, ils n'en savent rien. Ils ont potentiellement acheté la matière un an avant. Entre-temps, les cours de matière ont évolué. La matière est un peu dévaluée parce qu'elle a de la date de péremption en moins. Donc, il faut trouver un juste milieu pour que le produit puisse trouver preneur.
La question qui me venait à l'esprit, c'est est-ce que vous avez eu des difficultés, que ce soit côté donc vendeur, donc la personne qui a le stock en surplus, ou côté acheteur, donc la personne qui a besoin de ce stock, à les convaincre de la pertinence et de l'utilité de votre outil, ou pas du tout, ils ont tout de suite vu l'intérêt?
Côté vente, ils ont tout de suite vu l'intérêt, ce qui est plutôt logique, parce qu'en fait, on va s'adresser à des industriels et on va leur dire, est-ce que tu préfères vendre ton produit ou payer pour le détruire? Parce que la destruction, c'est quelque chose qu'on paye hein, quand on est industriel, relativement cher. Donc de ce côté-là, on a quasi une abondance naturelle de matières premières sur la plateforme et c'est plutôt simple. Par contre, à l'achat, on a eu des très très grosses barrières à l'entrée parce que justement, bah, c'est un milieu qui est très sensible. Il y a beaucoup de scandales sanitaires dans l'industrie agroalimentaire. Du coup, c'est potentiellement quelque chose qui fait peur aux clients d'acheter des matières qui passent pas par le cycle classique d'achat qu'ils peuvent avoir. Donc de ce côté-là, c'était assez complexe au début de se faire une place. On travaillait davantage avec des PME qui sont plus flexibles, qui sont plus ouvertes pour aller faire des analyses sur les produits, etc. et être sûr que le produit va bien être conforme. Par contre, les gros groupes, c'était très complexe. Aujourd'hui, un peu aussi grâce au contexte, on arrive à rentrer chez les gros groupes à l'achat, ce qui était inespérable il y a 2 ans quand on a lancé la boîte. Aussi malheureusement parce que le contexte d'achat de matières premières est vraiment catastrophique en Europe en ce moment. Enfin, il y a la guerre en Ukraine qui a coupé beaucoup sur les approches d'Europe de l'Est. On a beaucoup de pénuries matières sur toutes les matières qui venaient historiquement d'Asie. Donc en fait, les industriels aujourd'hui, s'ils veulent faire tourner leur ligne, ils ont besoin de trouver des solutions de substitution et on fait partie de ces solutions de substitution.
D'accord, donc ouais, donc là, vous êtes touché aussi par la crise, enfin, en tant parlez beaucoup d'agriculture en ce moment, donc ça vous touche aussi directement le contexte en Europe?
Ah bah ça nous touche. Alors nous, ça profite entre guillemets un peu à l'entreprise parce que ça permet aux industriels de voir un peu différemment et de pas passer par leurs canaux de distribution classiques qui sont en gros j'ai mon fournisseur qui est en Pologne et je passe que par mon fournisseur qui est en Pologne pour mes légumes. Grâce à Stockhelp, il peut se dire en fait j'ai déjà des stocks disponibles chez Stockhelp qui sont chez un industriel qui est pas trop loin de chez moi. Donc déjà je vais consommer ça avant de remettre en production chez mon fournisseur. Mais oui, ça nous touche parce que typiquement il y a énormément de pénuries sur certaines matières première, et même nous qui sommes en première ligne sur ces pénuries, on a beaucoup d'industriels qui nous contactent et qui nous disent j'arrive plus à trouver telle matière, est-ce que vous pouvez m'aider?
Par exemple, lesquels? Tu pourrais nous donner quelques exemples?
On a eu les exemples, alors tous les étés ça revient, mais sur les fruits rouges, on a des niveaux de production, enfin de rendement sur les fruits rouges qui sont catastrophiques et du coup on en a de moins en moins. Et ça, c'est quelque chose qui est assez récurrent. Et là, on sait qu'on va avoir vraisemblablement pareil sur les légumes verts là en début de saison estivale où on a des niveaux de production qui sont un peu plus bas.
Tu sais à quoi c'est lié ou c'est conjoncturel ou c'est vraiment une tendance lourde?
Non, pour moi, c'est une tendance relativement lourde. Enfin, c'est directement lié au réchauffement climatique. C'est que t'as des grosses zones de production historique pour l'industrie qui sont l'Italie, l'Espagne et la Pologne subissent à peu près comme tous les autres pays le réchauffement climatique et du coup subissent aussi les baisses de niveau de production.
Ça fait 2 ans et demi que tu es dans cette société. Maintenant, vous êtes combien chez Stockhelp? Est-ce que vous vous limitez au marché français ou est-ce que vous commencez aussi à regarder d'autres industriels dans d'autres pays en Europe, par exemple?
Pour répondre à la première question, aujourd'hui on est 15 chez Stockhelp. Splitté en deux, on pourrait, pour simplifier, avec la moitié côté tech, la moitié côté sales. Et on est historiquement, alors on s'est lancé sur le marché français, mais parce que c'était bien plus logique de se lancer sur le marché français, vu que c'est celui qu'on connaissait. Mais on est déjà présent à l'international. En gros, on fait 80% de nos ventes en France. On fait à peu près 10% de nos ventes entre la France et des pays frontaliers. 15%. Et on commence à avoir les prémices de vente 100% hors France. Donc là, typiquement, on a nos premiers clients. On a une autre première transaction 100% hors France qui s'est faite il y a quelques mois, qui concerne c'est un client autrichien qui a acheté des stocks à un industriel polonais en étant 100% autonome sur la plateforme. Donc, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est qu'en fait, la plateforme se répand par le bouche à oreille et ce, même hors France, et ça fonctionne hors France. Et en fait, de toute façon, on est une des seules solutions qui existent.
Ça veut dire que dans tous les, à minima en Europe, tous les industriels ont le même problème au final.
En Europe, tous les industriels ont le même problème et ils ont tous les mêmes critères d'achat. C'est ce qui est super bien aussi, nous, pour l'expansion de la boîte, c'est que acheter une matière première en France, c'est exactement la même chose qu'acheter une matière première aux Pays-Bas ou en Italie. On a les mêmes documents qui sont demandés, on a les mêmes normes logistiques, les mêmes normes de stockage, etc. Donc, on peut, pour nous, étendre l'activité de la boîte. C'est génial parce qu'en fait, on sait qu'aujourd'hui, le système qu'on a créé, on peut le dupliquer partout en Europe.
Quelles sont tes ambitions à toi pour Stockhelp à court et moyen terme? C'est de devenir l'acteur numéro 1 en Europe?
Alors, à court terme, c'est de devenir l'acteur numéro 1 en Europe sur cette solution de surstock. À plus long terme, on voit bien plus loin que les surstocks. En fait, la réflexion qu'on a avec William depuis qu'on a créé la boîte, c'est de se dire que s'attaquer au marché du surstock, c'est génial, mais c'est pas suffisant. En gros, aujourd'hui, en revendant des surstocks, on fait juste, on vient appliquer un pansement sur une industrie qui fonctionne pas forcément de la meilleure manière. Mais si on prend un peu de recul, aujourd'hui, on a des surstocks parce qu'on n'achète pas selon les bons standards ou qu'en tout cas, on achète toujours de la même manière qu'on achetait il y a 20 ou 30 ans. Donc, en fait, si on veut limiter ces phénomènes de gaspillage, acheter plus raisonnablement, il faut qu'on arrête de juste penser les surstocks et qu'on commence à repenser tout le système global d'achat et de procurement dans l'industrie agroalimentaire. Et c'est vers ça qu'on veut se diriger plus à long terme. En gros, c'est que Stockhelp devienne la seule solution, ou en tout cas la solution leader sur le sourcing de matières premières qu'on appelle du coup responsable en Europe. Si on simplifie ça veut juste dire que Stockhelp veut être le seul intermédiaire, ou en tout cas supprimer tous les intermédiaires qu'il y a entre l'industrie et les fournisseurs, proposer aux industriels de gérer l'intégralité de leurs commandes sur la plateforme et de leur dire, écoutez, dès que vous avez des besoins en matières premières, vous venez sur Stockhelp. Nous, ce qu'on s'engage à faire, c'est vous fournir déjà tout ce qui est disponible sur le marché. Donc les surstocks ou les stocks dormants. Et dès qu'il y a plus de stocks disponibles sur le marché, on vous met en relation avec des fournisseurs qui sont plus proches de chez vous, qui ont une transparence totale sur une traçabilité et une transparence totale sur leurs produits, et avec des critères qui sont additionnels par rapport aux critères qu'on a actuellement dans les achats, qui sont actuellement le prix et la quantité. Nous, on vend des matières premières avec des critères supplémentaires qui vont être l'empreinte carbone, la distance à mon usine, le respect des périodes de récolte, etc. Enfin, juste remettre de la logique dans cette industrie qui en a besoin, quoi.
Est-ce que tu sens que les acheteurs agroalimentaires commencent à prendre en compte ces sujets, l'empreinte carbone, etc., ou c'est encore très, très, comme tu disais, un peu old school et ils pensent qu'au prix et à être livrés à temps.
C'est super ambivalent parce qu'on parle d'une industrie où les prix, il y a une inflation telle sur les matières premières que même s'ils veulent faire les choses bien, il y a un moment où en fait, s'ils veulent juste avoir un P&L stable dans leur boîte, il faut qu'ils achètent en quantité et avec des prix moindres. En fait, aujourd'hui, l'objectif d'un acheteur, c'est de maîtriser son portefeuille. Il est vachement plus orienté sur l'argent que sur l'impact. Par contre, ça, c'est un peu la face du tableau noir. Nous, ce qu'on voit émerger, et ça vient des grands groupes, c'est que les grands groupes, de plus en plus, demandent à ce qu'il y ait une traçabilité carbone sur les achats. Donc ça, c'est absolument génial parce que nous, on s'intègre là-dedans. Et aujourd'hui, déjà, avec StockHelp, en fait, on fournit des bilans carbone sur les matières qui sont vendues via la plateforme. Donc ça permet de commencer à instaurer toute cette logique autour de l'impact carbone des produits qu'on achète via la plateforme. Et à côté de ça, chose qui n'existait pas, on commence à avoir un encadrement légal européen où au début, en fait, cette partie gaspillage alimentaire et traçabilité des matières premières, enfin sur la partie carbone, n'était absolument pas requise légalement parlant. On commence à avoir des lois qui émergent, notamment AGEC 2025, les extensions 2030, etc., qui demande aux industriels de réduire leur gaspillage et aussi de faire attention aux matières qu'ils achètent. Donc on s'intègre totalement là-dedans et après il y a un moment où si juste c'est des logiques de prix, c'est aussi peut-être que les prix qu'on a eu l'habitude d'avoir en grande distribution aujourd'hui sont pas cohérents avec les niveaux de production qu'on peut assouvir. Et du coup il y a peut-être une logique plus globale de se dire c'est plus important d'acheter mieux, d'acheter moins, mais de permettre aux industriels d'acheter des matières qui sont pas juste motivées par des réductions budgétaires, quoi.
Là on est en plein dans le sujet actuel en ce moment.
C'est exactement ça, ouais.
On va dire que vous avez eu l'intuition de ce qui allait se passer en 2024, vous l'avez eu bien avant, donc ça c'est top.
Aujourd'hui, on est en fait sur un système d'achat dans l'industrie agro, et si tu as fait des achats avant, je pense que tu le connais très bien, qui est ultra intermédié. En fait, dans l'industrie agroalimentaire, aujourd'hui, ça, c'est très fréquent d'acheter une matière première sur laquelle il y a 3 ou 4 intermédiaires qui sont passés avant qu'elle arrive à mon usine. Donc, en gros, moi, je vais chercher des courgettes, je vais demander à un agent français qui va lui-même demander à un agent européen, qui va lui-même se retourner vers un agent polonais et qui lui-même va se demander à un agent local d'acheter ses courgettes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a 2-3% de marge, de points de marge qui vont être grattés sur une transac. Et c'est aussi ça qu'on veut, entre guillemets, éviter avec la plateforme. On veut des intermédiaires parce que là, on le voit avec les crises actuelles qu'il y a dans l'agriculture, en fait. Pour moi, la valeur doit se retrouver en priorité chez le producteur, chez le transformateur et pas chez des intermédiaires. On doit remettre l'argent là où il devrait être. Et c'est aussi l'utilité d'une plateforme comme ça, c'est de se dire on centralise tous les fournisseurs de matières premières et c'est eux qui doivent percevoir la valeur de la matière et ce n'est pas des intermédiaires qui ont juste fait passe-plat au milieu, quoi.
Il faut se poser la question, je pense, de savoir pourquoi il y a ces intermédiaires pendant tant d'années. C'est sans doute que le producteur, lui, son job principal, c'était de produire. Il n'a sans doute pas les connaissances, le temps et le réseau de pouvoir vendre son produit à une multitude d'acteurs.
On est complètement d'accord, ouais.
C'est peut-être là que justement votre solution est intéressante pour eux, quoi, parce que ça va leur permettre d'avoir un accès direct, enfin plus simplifié au client final et donc du coup d'avoir moins d'intermédiaires et donc de vendre mieux leur produit. C'est ce que je comprends de ce que tu me dis.
Ouais, c'est ça. C'est qu'on était sur un milieu intermédiaire parce qu'en fait, on n'avait pas les connaissances, que l'industrie agro, c'est en plus une industrie relativement fermée. Donc, si on ne connaît pas les services achats, etc., on peut difficilement les contacter et on est obligé de passer par des intermédiaires qui connaissent tous ces échelons et toutes ces normes aussi, qualité, etc., qu'il faut mettre en place au fur et à mesure. Et ce qui est absolument génial avec des solutions comme la nôtre, c'est que on permet de simplifier tous ces réseaux, de digitaliser tout ça, de centraliser l'information aussi et du coup d'avoir une traçabilité qui est bien plus bonne qu'avant.
De ce que tu nous as dit depuis 25 minutes, je trouve que c'est une superbe idée et j'espère que vous allez atteindre vos objectifs très rapidement pour devenir le numéro 1 en France, c'est déjà le cas j'ai l'impression, mais surtout en Europe parce que j'ai l'impression que nos producteurs en ont bien besoin. Tanguy, on arrive au terme de notre discussion. Avant de nous quitter, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait se lancer dans l'entrepreneuriat mais qui ne saurait pas forcément comment s'y prendre, est-ce que tu aurais un conseil à donner?
Alors le plus gros conseil qu'on peut donner, je pense que William serait assez aligné avec moi, qui est mon associé du coup, de ne pas avoir peur d'essayer, quitte à passer un peu pour un idiot au tout début, mais de ne surtout pas investir dès le début sur le produit, de ne pas chercher en gros à faire le produit parfait dès le début. C'est pas possible. Et nous, c'est ce qu'on a fait au début avec William. Si je prends un exemple très concret, on a créé un faux site qui était relativement moche, qui était truffé de fausses annonces. Et l'idée, c'était juste d'aller voir des clients et de voir comment ça prenait et de commencer à affiner la réflexion et en fait de commencer à faire du business. Et c'est comme ça qu'on a pensé toute la boîte, c'est qu'en fait, on n'investit rien sur la tech et sur le produit tant qu'on n'a pas démontré qu'il y a commercialement un intérêt. Ce qui est un peu à l'inverse de start-up très orientées produits qui n'ont pas forcément le product market fit, mais qui lancent quand même un produit Moi, mon conseil, c'est de faire tout l'inverse. C'est plus de se dire, je démontre qu'il y a un marché. Une fois que j'ai mon marché, j'établis mon idée. Et une fois que j'ai mon marché, mon idée, bah, je peux commencer à investir sur mon produit et sur ma techno.
Très clair, ouais. Je pense que je suis plutôt en phase avec toi d'ailleurs là-dessus. Donc, il vaut mieux aller voir les gens puis leur demander s'ils ont besoin de ta techno avant de passer des heures et beaucoup d'argent à développer un produit dont ils n'ont pas besoin.
C'est ça. Il faut pas avoir peur de se prendre des portes et de passer parfois un peu pour un idiot. On avait beaucoup de fausses annonces au début sur la plateforme. Il y a des clients qui nous ont appelés pour essayer de les acheter. Ah, on trouve toujours une excuse pour expliquer que
C'est déjà vendu.
c'est exactement ça. On leur dit pas que ça a jamais existé, on leur dit
Voilà.
juste que
Trop tard.
il fallait arriver plus tôt.
Merci Tanguy, et puis je te souhaite plein de succès avec Stockhelp.
Merci à toi, Xavier, et puis à très vite.
Et voilà, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'ai été ravi de vous faire partager ce moment avec cet entrepreneur très inspirant. N'hésitez pas à nous soutenir et laisser vos commentaires sur nos réseaux sociaux LinkedIn, Twitter et Instagram, ou bien encore nous laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour le prochain épisode de nos podcasts. À jeudi !